VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Madame, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide pour vous accompagner. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui en ce lundi 6 avril 2020. Une émission préenregistrée en télétravail en raison du Covid-19. À la une de l'actualité ce soir. Au Mali, au moins 20 soldats tués dans le nord du pays au cours d'une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes. En Côte d'Ivoire, nouveaux affrontements liés à un centre de dépistage du Covid-19 à Yopougon. Dans la partie magazine, coup de projecteur sur le Niger, l'un des pays les plus pauvres du continent africain, dont l'économie est d'ores et déjà très affectée.
Il en résultera pour l'année 2020 une dégradation du déficit budgétaire global, prévu au départ à 2,6% et qui passerait à 3,7%.
Dans le monde, la pandémie a fait plus de 70 000 morts, avec un ralentissement des décès en Europe. Mais les États-Unis, eux, s'attendent à une semaine extrêmement difficile. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. Le Mali, pour démarrer, au moins 20 soldats ont été tués aujourd'hui dans la région de Gao, dans le nord du pays, une partie toujours en guerre. Il s'agit d'une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Bamba est une ville et une commune du cercle de Bourem dans la région de Gao. C'est une ville martyre à cause des différentes rébellions Touareg. Depuis hier, des hommes armés sur des motos et véhicules rôdaient autour des villages avant de se réunir en groupe de 20. Et c'est à l'aube qu'ils ont attaqué le poste des forces armées maliennes Fama. Les populations disent avoir dénombré 23 corps sur place. Les mêmes sources annoncent qu'il y a eu des portées disparues et plusieurs matériels emportés et les camps détruits. Après l'attaque, les assaillants ont pris la direction vers Iminas avec le matériel. Iminas est un village entre Gao et Bamba, situé à quelques 200 kilomètres. C'est dans la mi-journée, avec l'arrivée des renforts dépêchés de Gao, que le poste est détenu par les forces armées maliennes. Par ailleurs, avec la multiplication le début du mois de mars des attaques dirigées contre les communautés dans le secteur de Banyangara et Bankas, et en particulier des villages situés dans les communes de Baye et Wankoro, rallonge désormais la liste des cités martyrs, indique un communiqué du gouvernement. Les deux dernières attaques ont enregistré des violences avec respectivement 15 et 22 morts. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, de nouveaux affrontements ont eu lieu ce lundi à Yopougon entre forces de l'ordre et des habitants qui refusent la construction d'un centre de dépistage du nouveau coronavirus. Il s'agit de l'un des derniers développements liés à la pandémie sur le continent africain, comme nous le résume Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, la construction d'un centre de dépistage a déclenché des affrontements hier et aujourd'hui à Yopougon, dans la banlieue d'Abidjan. 12 arrestations ont eu lieu après que les habitants de ce quartier populaire sont sortis en nombre pour protester. Les policiers anti-émeutes ont tiré des grenades lacrymogènes et démantelé des barrages routiers. Au Rwanda, les ministres et hauts fonctionnaires ne toucheront pas de salaire en avril. Cet argent sera affecté à des programmes pour aider les pauvres face à la crise économique liée au coronavirus. Le président kényan Uhuru Kenyatta a interdit aujourd'hui les déplacements vers et au départ des 4 principaux foyers de contamination dans le pays, dont la capitale Nairobi, à compter de lundi et pour une durée de 21 jours. Le président Kenyatta s'est abstenu d'ordonner un confinement complet, mais il a prévenu qu'il était prêt à aller encore plus loin si nécessaire.
La République démocratique du Congo a entamé ce matin l'isolement et le confinement total du centre politique, économique et diplomatique de Kinshasa. La capitale l'a considéré comme l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Pendant ce confinement sélectif jusqu'au 20 avril, les autorités sanitaires envisagent la désinfection massive de la commune de Gombe, siège du gouvernement, de plusieurs banques et grandes entreprises et des principales ambassades. Dès ce lundi matin, des checkpoints sécuritaires et sanitaires ont été mis en place. La pandémie pourrait avoir des conséquences catastrophiques en Afrique, comme par exemple la perte de 20 millions d'emplois ou la hausse de l'endettement, anticipe une étude de l'Union africaine. Il s'agit d'emplois à la fois dans les secteurs formels et informels qui sont menacés si la situation persiste, prévient cette étude, qui estime que les pays dont l'économie repose largement sur le tourisme ou la production pétrolière sont les plus à risque. Ce document de 35 pages avance deux scénarios, un qualifié de réaliste qui prévoit que la pandémie dure jusqu'en juillet et que l'Afrique n'est pas trop affectée, et un pessimiste durant jusqu'à août et dans lequel le continent souffre plus. Ce lundi, 9198 cas de coronavirus et 414 morts ont été officiellement recensés dans 51 pays africains. L'armée soudanaise s'est déployée ce lundi dans les rues menant à son quartier général à Khartoum à l'occasion du premier anniversaire d'une manifestation de masse qui a mené à l'éviction de l'ex-président Omar el-Béchir. Des dizaines de milliers de manifestants s'étaient rassemblés le 6 avril 2019 devant le QG de l'armée pour exiger le départ d'Omar el-Béchir environ 4 mois après le début d'une contestation populaire inédite. En Algérie, une figure de la contestation du Irak a écopé aujourd'hui 1 an de prison ferme et d'autres militants risquent de lourdes peines. Abdelouhab Fersaoui, président du Rassemblement Action Jeunesse, une association citoyenne à la pointe du mouvement populaire anti-régime, a été condamné pour atteinte à l'intégrité du territoire national. L'universitaire de 39 ans est en détention provisoire à la prison d'El Arach à Alger depuis son arrestation le 10 octobre, alors qu'il participait à un sit-in de soutien aux détenus d'opinion. D'après les associations de défense des droits humains, il avait critiqué la répression contre le mouvement Irak.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a fait plus de 70 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre dernier en Chine. L'Europe est le continent le plus endeuillé avec près des 3/4 du total des victimes. Le point avec Ekia Badou.
Plus de 70 000 décès ont été recensés dans le monde, dont 50 215 en Europe, le continent le plus touché. L'Italie compte le plus de décès avec plus de 15 800 morts, suivi de l'Espagne avec près de 13 000 morts, les États-Unis avec 9 648 morts et la France plus de 8 000 morts. Depuis le début de la pandémie, plus d'un million de cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, 55 ans, testé positif, a été hospitalisé hier, mais selon son équipe, il reste aux commandes du gouvernement. En Espagne, le nombre de décès a baissé pour le 4e jour de suite, avec 637 morts en 24 heures, le plus bas depuis 13 jours. En Iran, la maladie a fait 136 décès supplémentaires ces dernières 24 heures, ce qui porte à 3739 morts le bilan officiel. Ce chiffre témoigne d'une baisse des nouveaux cas quotidiens pour le 6e jour d'affilée.
La chancelière allemande Angela Merkel a jugé ce lundi que l'Union européenne faisait face à sa plus grande mise à l'épreuve depuis sa fondation avec la pandémie de nouveau coronavirus. La dirigeante conservatrice a également estimé que la réponse à cette crise ne pouvait être que plus d'Europe. Une Europe plus forte et une Europe qui fonctionne bien, dit-elle. C'était au cours d'une conférence de presse à Berlin. Nous sommes face à un grand défi pour la santé de notre population, a-t-elle souligné, rappelant qu'à des degrés divers, tous les pays étaient frappés par la pandémie, l'Italie et l'Espagne accusant le plus grand nombre de morts dans l'UE. Les États-Unis, eux, s'approchent de la barre des 10 000 morts, dont plus de 4 000 dans l'État de New York. Le pays est toujours le plus touché en nombre de cas, avec plus de 337 600 contaminations et près de 18 000 guérisons. Le président Donald Trump estime que le pire est à venir. Nathalie Barge pour les détails.
Dans les jours à venir, l'Amérique va supporter le pic de cette terrible pandémie, a déclaré Donald Trump, prédisant que ces 2 semaines seront très difficiles. Le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a évoqué une mortalité en train de se stabiliser tout en reconnaissant peiner pour contrôler la pandémie. L'administrateur fédéral des services de santé publique, Jérôme Adams, a déclaré que cette semaine sera un moment comme Pearl Harbor ou le 11 septembre, sauf que ce sera dans tout le pays. À New York, le système de santé est en situation de stress, faute d'équipements et de professionnels en nombre suffisant, selon le gouverneur Andrew Cuomo.
Le gouvernement suédois, critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, a présenté ce lundi un projet de loi visant à renforcer temporairement ses pouvoirs afin de lutter contre l'épidémie, soulevant les critiques de l'opposition. Cette nouvelle loi permettrait au gouvernement, conduit par le social-démocrate Stefan Löfven, de prendre certaines dispositions, comme celle de limiter les rassemblements publics ou fermer des entreprises sans l'approbation du Parlement monocaméral. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un résumé des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Eki Abadou.
Le président du Malawi, Peter Mutharika, a annoncé avoir réduit de 10% son salaire pour aider à faire face au coronavirus. Il a aussi ordonné au Trésor public d'en faire de même pour ses ministres et vice-ministres pendant 3 mois. Le Malawi a enregistré jusqu'à présent 4 cas confirmés. Le président malawite affirme que le gouvernement prendra des mesures pour protéger les emplois et les entreprises pour garantir la continuité de la chaîne d'approvisionnement et la survie de l'économie. Toujours dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé un effort de l'ordre de 250 milliards de francs CFA pour aider les particuliers et les entreprises qui bénéficieront de remises d'impôts et d'un guichet de financement. Les personnes aux faibles revenus recevront une partie de leur salaire et un gel des loyers. Le Nigeria et l'Angola, deux grands producteurs de pétrole, pourraient à eux seuls perdre 65 milliards de dollars de revenus. Les déficits budgétaires devraient doubler cette année et leurs économies se contracter en moyenne de 3%. Les destinations touristiques africaines vont également souffrir. L'Afrique a été ces dernières années parmi les régions qui ont enregistré la croissance la plus rapide au monde. Mais avec les frontières fermées et les compagnies aériennes clouées au sol, le secteur est presque entièrement à l'arrêt.
Et maintenant, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Pas de reprise des compétitions en Algérie avant le 19 avril. Initialement prévue pour hier, dimanche, la reprise des activités sportives dont le championnat de football a été décalé au 19 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. En Europe, les joueurs du Bayern Munich vont reprendre l'entraînement lundi par petits groupes, a indiqué dimanche le club allemand. Cela sera fait en coordination avec la politique du gouvernement et des autorités compétentes. Toutes les règles d'hygiène seront strictement observées, a ajouté le club en tête du classement de la Bundesliga avant l'interruption de la compétition le 13 mars. Le Bayern Munich appelle ses supporters à continuer de suivre les instructions des autorités et à ne pas venir au centre d'entraînement. Et puis le célèbre site Transfer Market a publié le classement des championnats de football africains qui ont la plus grande valeur marchande. C'est celui de l'Afrique du Sud qui est en tête avec une valeur estimée à 146 millions d'euros, suivi par l'Égypte qui vaut 137 millions d'euros. Pour le reste, la Botola au Maroc est classée 3e avec 126 millions d'euros. En 4e position, on retrouve la Ligue 1 tunisienne estimée à 118 millions d'euros. Et le championnat d'Algérie ferme le top 5 avec un poids économique de 92 millions d'euros. Les premières ligues ghanéennes et nigériennes sont classées respectivement 6e. Avec 18 millions d'euros et 7e avec 200 000 euros. En cyclisme, Mark Cavendish, la star britannique de la Petite Reine, a confié au quotidien The Times qu'il vient de surmonter 2 ans de dépression. Ce n'est pas seulement ma santé physique qui a été mise à mal ces 2 dernières années, a déclaré le sprinteur de 34 ans, ajoutant, je cite, « J'ai beaucoup lutté contre la dépression pendant cette période ». Mark Cavendish, qui compte 146 victoires à son palmarès, a notamment gagné le championnat du monde 2011. Dans les grands tours, il s'est imposé à 48 reprises, dont 30 sur le Tour de France. Basketball, pour finir, Evan Fournier ne croit plus à la reprise du championnat NBA, suspendu le 11 mars à cause du coronavirus. « J'y crois de moins en moins à la reprise de la saison », a écrit l'arrière français d'Orlando sur son compte Twitter. Fournier parle par contre de l'un des scénarios évoqués régulièrement pour la reprise de la saison NBA, à savoir un championnat resserré avec le début immédiat des playoffs au moment de la suspension du championnat. Orlando était 8e de la conférence Est et était virtuellement qualifié pour les playoffs.
Merci Yakuba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Nous passons maintenant à la tranche magazine. Quels sont les effets de la crise du coronavirus sur les économies africaines ? Gros plan ce soir sur le Niger, qui va perdre près de 3 points de croissance cette année en raison des perturbations des activités économiques entraînées par le Covid-19. L'inflation sera considérable, d'après les autorités, qui estiment les besoins financiers à environ 600 millions de francs CFA pour faire face à la situation. De Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa fait le point.
L'hypothèse qui a servi de base pour faire les projections sur de nouveaux indicateurs macroéconomiques est celui-ci, la fin du mois de juin comme période de maîtrise ou de fin totale de la crise du Covid-19.
Les résultats que je vous présente sont actuellement en cours de mise à jour par mes services.
Mahamadou Diop, ministre de l'économie et des finances.
Le taux de croissance pour l'année 2020 passerait de 6,9% à 4,1%. Soit une perte de 2,8 points de pourcentage. La contraction de l'activité économique engendrerait une perte d'emploi d'environ 2,4%. La perturbation de l'approvisionnement en produits de consommation courante et les effets spéculatifs induits conduiraient à un taux d'inflation annuel compris entre 4,4% et 7,9%. Au niveau des finances publiques, il sera enregistré une baisse des recettes internes d'environ 89,2 milliards. Soit 1,1% du PIB. Il en résultera pour l'année 2020 une dégradation du déficit budgétaire global, prévu au départ à 2,6% et qui passerait à 3,7% du PIB.
Pour faire face à tout cela, un besoin financier de l'ordre de 600 millions de francs CFA est nécessaire. Cette crise économique due au Covid-19 se propage, selon le ministre de l'économie et des finances au Niger, par trois canaux principaux.
Premier canal, le commerce de biens, notamment les importations de produits de consommation courante. Deuxième canal, le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, des transports aériens et terrestres. Troisième canal, les flux financiers internationaux à travers les envois de fonds des travailleurs migrants, les investissements directs des étrangers et l'aide publique au développement. Le canal suivant, c'est le secteur bancaire et financier, en raison des risques de ralentissement des activités, de liquidité et de bilan auxquels sont exposées les banques.
À la date du 5 avril, le Niger enregistre officiellement 184 cas confirmés de malades de Covid-19 avec 10 décès et 13 personnes qui ont été guéries. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h/24.
Au Cameroun, plus de 7,2 millions d'élèves et étudiants sont affectés directement par la fermeture des établissements scolaires et universitaires à cause de la crise du Covid-19. Confinés à la maison depuis le 18 mars dernier, ils multiplient les initiatives pour poursuivre leur éducation. Pour leur part, les universités privées subissent financièrement l'impact du nouveau coronavirus de Yaoundé. Le reportage d'Emmanuel Julentap.
Nous avons mis sur pied un forum qui regroupe 30 élèves et 8 enseignants.
Plus de 3 semaines après la fermeture des établissements scolaires en raison du Covid-19, Brenda, élève en classe de terminale dans un collège privé de Yaoundé, s'est arrimée malgré elle à l'enseignement à distance via l'application WhatsApp.
Nous avons 2 matières par jour, le matin de 4 à 6 heures et le soir de 18 à 22. Nous faisons des corrections des épreuves et des sujets. Mais pour enfants essayent souvent parfois de laisser des devoirs et après on corrige ensemble. C'est pas si facile parce que c'est coûteux et il faut tout le temps avoir des mégas, mais nous faisons avec, c'est pour notre santé.
Ce suivi scolaire à distance n'est pas cependant gratuit. Chaque élève du forum va débourser 10 000 francs CFA au bout d'un mois. Des moyens financiers que Marie-Jeanne dit ne pas avoir. Élève en classe de terminale au lycée d'Anguissa à Yaoundé, elle sollicite l'aide de ses camarades de classe en cas de besoin.
Je peux demander à mes amis, dans nos groupes WhatsApp, un ami qui comprend mieux la leçon, je lui demande de m'expliquer.
Dans l'enseignement supérieur privé, la poursuite des programmes de formation académique préoccupe également, comme à l'Institut Saint-Louis, spécialisé dans la formation au métier de la santé. Initialement basé à Bamenda, l'Institut a délocalisé à Douala à cause de la crise anglophone. Le COVID-19 est un coup dur pour le promoteur Nick Nguayam.
Nous n'avons pas de subvention de l'État et les étudiants, ils payent des frais de scolarité et puis c'est avec ces frais de scolarité que nous faisons fonctionner l'école. Et quand les activités économiques sont à terre, alors bien sûr, les étudiants ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Alors bien sûr, l'école ne peut pas avoir de l'argent. Et puis, vous savez, c'est cher. Hein, les enfants n'ont pas assez d'argent pour payer la nourriture. Alors quand nous leur demandons de payer la bande passante, cela ressemble à une insulte.
La pandémie du nouveau coronavirus a révélé au grand jour le fossé numérique au Cameroun.
Nous remarquons d'ailleurs avec cette épidémie que les domaines prioritaires à arrimer au TSC sont les professionnels de l'éducation et de la santé.
Armand Claude Abanda, directeur de l'Institut africain d'informatique, dont le siège est à Yaoundé.
Seulement 20 à 25% des enseignants au Cameroun disposent d'un accès à Internet. La plupart ne possèdent pas de compétences en TSC. Nous devons donc aider les enseignants à s'adapter à ce nouveau cadre d'apprentissage.
Afin de couvrir le dernier tiers du programme scolaire, la radio et la télévision d'État ont entamé dès ce lundi la diffusion des cours pour les élèves des classes d'examen du cycle primaire, mais également pour certains élèves du cycle secondaire. Auparavant, la ministre des Enseignements secondaires a annoncé que le gouvernement allait expérimenter une plateforme d'enseignement à distance pour tous. Les enseignants qui ont des cours bien élaborés ont été invités à les déposer auprès du ministère. Mais à ce jour, la plateforme n'est pas encore fonctionnel. Yaoundé, Emmanuel Jelouta, VOA Afrique.
L'Algérie reste le pays d'Afrique du Nord le plus touché par le coronavirus, avec au moins 130 décès et 1300 cas déclarés selon le dernier bilan. La crise met en lumière les dysfonctionnements de la santé publique dans ce pays, mais fait en même temps naître l'espoir. Toute une chaîne de solidarité s'est mise en place à l'image de cette usine de textile à Alger qui se concentre désormais sur la fabrication de masques de protection comme nous allons l'entendre. Ça grouille d'activité ici dans cette usine du textile dans la capitale algérienne. Derrière des rangées de machines à coudre, des volontaires confectionnent des masques en tissu approuvés par les autorités sanitaires. L'objectif est de produire un minimum de 1600 masques par jour afin d'aider à pallier le manque criant de ce matériel médical en Algérie. Les volontaires, pour la plupart des femmes, sont d'avis qu'elles sont en train de remplir un devoir citoyen dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Noura, l'une des couturières.
Nous sommes venus ici pour répondre à l'appel de notre pays, pour aider au moins les médecins qui se plaignent de la rareté des masques. D'une certaine façon, j'aide à protéger les soldats, les policiers, les nettoyeurs. Nous espérons en produire davantage dans les prochains jours.
Le produit final est désinfecté à la fin de sa fabrication. Karima, une autre volontaire.
Ce sont des masques médicaux conformes aux normes requises. Nous utilisons deux tissus principaux que nous ajoutons à un filtre qui est étanche. Puis nous les coudons ensemble. Ensuite, nous passons à la troisième étape où nous les plions. Puis nous les plaçons enfin dans la machine de désinfection.
Le gouvernement va dépenser 100 millions de dollars pour importer du matériel médical, dont 100 millions de masques de la Chine, outre une production locale de 90 000 masques par jour, avec le concours des volontaires. Soheila tient également à prendre part à l'élan de solidarité manifesté à travers le pays.
Je suis venue ici en tant que volontaire pour remplir mon devoir national et pour le bien de notre communauté. Tant qu'il y aura une pénurie de masques durant cette pandémie, nous serons là pour aider.
Le coronavirus continue à infecter plus de gens en Algérie et à faire davantage de victimes. Hormis la pénurie de masques, le pays est confronté à un manque d'autres produits de protection, dont le gel hydroalcoolique, mais les initiatives citoyennes se multiplient notamment pour venir en aide aux professionnels de la santé du pays.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, la distanciation sociale pour ralentir la propagation du virus a contraint les leaders politiques à changer de tactique pour battre campagne, en particulier les candidats à la présidentielle de novembre prochain. Voyons comment ils ont changé leur stratégie de campagne avec Steve Reddish, le récit est de Thierry Kaoré.
En quelques jours, la campagne présidentielle américaine est passée de là à ça. Le nouveau coronavirus a changé la donne. Plus d'une douzaine d'États et de territoires ont soit reporté les élections primaires, soit opté pour le vote par correspondance, retardant ainsi le choix par le Parti démocrate de son candidat à la présidentielle. Le leader de la course, Joe Biden, s'adresse maintenant au public à travers des émissions sur Internet, préenregistrées dans son studio de fortune dans sa maison du Delaware. Son personnel de campagne travaille désormais à distance. Ces rassemblements bruyants du président Donald Trump sont en attente. Le président a substitué des conférences de presse quotidiennes sur le COVID-19 à la Maison-Blanche, à son calendrier de voyage normalement chargé.
Il est certainement très bénéfique pour lui d'avoir la possibilité de parler à des millions de personnes au quotidien.
La plupart des candidats et campagnes à tous les niveaux utilisent activement les médias sociaux pour diffuser leurs messages et collecter des fonds. Les dépenses seront également différentes.
Vous allez voir beaucoup plus d'argent dépensé pour la publicité et c'est pour deux raisons. La première étant que vous ne pouvez pas envoyer des gens de porte à porte pour solliciter et distribuer des messages imprimés. Et aussi, il est vraiment difficile d'avoir du temps d'antenne en tant que candidat parce que ce dont tout le monde veut entendre parler, c'est la pandémie de coronavirus.
Les habitudes comme aller aux urnes, serrer la main, embrasser des enfants et se photographier avec un candidat peut faire les frais de tous ces changements dus au COVID-19, surtout quand on demande aux citoyens de rester chez eux.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez
télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Hélène Gaïma, Michel Joseph, Joselle Morissin et Georges Léonard Saint-Mieux. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous encore une fois ce soir. C'était Jacques Aristide dans votre compagnie. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. A très bientôt. Take care. Prenez bien soin de vous. Au revoir.
Et en Érythrée.